Deux athlétiques garçons de 7 ans,
si, si, on fait athlétique à 7 ans,
commencent à prendre des leçons de natation. L'un apprend à nager parce qu'il a vu les Jeux Olympiques à la télévision et ça a transformé sa vie, c'est ça qu'il veut faire, il veut maintenant s'engager dans cette voie-là. Et il veut surtout gagner la médaille d'or quand il sera grand. Il se voit déjà sur le podium, il décore sa chambre des posters des Jeux Olympiques et il écoute son hymne national tous les jours. L'autre gamin, lui, a commencé les leçons de natation pour faire plaisir à son père, qui a toujours été un grand fan de tout ce qui touchait à la natation. Lequel des deux, croyez-vous, aura le plus de chances de participer un jour aux Jeux Olympiques? Celui qui nage pour accomplir son rêve. Deux jeunes hommes de 20 ans ont l'objectif d'économiser 10 000 euros. L'un le fait parce qu'il veut acheter une vieille voiture de sport dont il rêve depuis qu'il est tout petit. Et de plus, ça lui permettra de gagner en indépendance. L'autre jeune économise parce qu'il pense qu'il devrait le faire. Lequel des deux arrivera à économiser la somme en premier pour réaliser son rêve? Ben, celui, probablement, qui économise pour accomplir son rêve. Dans le livre de la Genèse, il y a une histoire, toutes les femmes adorent ce verset. Mesdames, je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous le verrez. Une histoire nous transmet la même vérité, c'est un petit verset que je tire du livre de la Genèse. Ainsi Jacob, c'est le monsieur qui fixe la femme au fond d'image, ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel, pour obtenir Rachel, donc gratuitement, j'entends, auprès de son père, et lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Toutes les femmes, enfin, on sait bien qu'on n'achète plus les femmes aujourd'hui, hein, c'est une bonne chose, ça coûterait trop cher. Mais le texte est quand même très beau, on est quand même dans une culture hébraïque primitive par rapport à ce texte, et à l'époque, qu'un homme aime véritablement une femme, c'était plutôt rare. Donc le texte dit que Jacob est tombé amoureux de Rachel si profondément qu'il a été d'accord de travailler 7 ans pour payer sa dot. Mais cela ne lui sembla pas long, car il se consumait d'amour pour elle. Que c'est beau. Qui est capable de considérer 7 ans de sa vie comme s'il ne s'agissait que de quelques jours? Ben, celui qui travaille, qui consacre sa vie à accomplir ce qu'il désire vraiment. Il n'y a pas de plus grande puissance dans ce monde que le désir qui nous anime lorsque nous disons « il faut que j'ai ça, il faut que j'arrive là ». Lorsque Jésus parle de la vie avec Dieu, il le fait au travers d'histoire mettant en scène ce fameux désir, ce fameux « il faut que j'ai ça ». Il a par exemple parlé d'un homme qui découvre un trésor dans un champ et qui joyeusement, nous dit le texte, vend tout ce qu'il a, parce qu'il veut obtenir ce trésor qu'il vient de découvrir. Ou encore, il parle à un autre moment d'un marchand qui trouve une perle dont il a rêvé toute sa vie. Vous voyez avec ces paraboles dans le chapitre 13 de Matthieu. Parfois, en écoutant Jésus, des hommes ont vu ce fameux désir s'éveiller en eux. Ils ont vu Jésus vivre sa vie, ils ont été attirés par lui, par la paix qu'il dégageait, par son courage, par sa sagesse, par son enseignement, parce que sa vie disait de lui. Et tôt ou tard, cette pensée leur est venue, je dois absolument avoir ce qu'il a. Certains des problèmes des chrétiens, ils ne veulent absolument pas avoir aujourd'hui, plus avoir ce que Jésus possédait. Alors peut-être vous avez déjà cette passion en vous, je parle pour Dieu, dans l'absolu. Et si c'est le cas, vous pouvez retourner faire un tour, boire un verre, un café, etc. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Mais il me semble quand même que très souvent, trop souvent, on nous dit que nous devrions désirer Dieu au-dessus de toute chose, sans jamais nous avoir dit comment est-ce qu'on peut faire pour aimer et désirer Dieu plus que toute autre chose. Et je pense que nous avons tous déjà bien compris que nous ne pouvons pas faire apparaître ce désir sur commande. J'ai essayé. Il faut que je désire Dieu. Vous avez essayé? Ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas du tout. Donc, si votre facteur de désir spirituel a tendance à chanceler ou à fluctuer, je pense que la suite vous concerne. Grandir spirituellement, ce qu'on peut objectivement dire est un synonyme de devenir disciple, nécessite que notre vie avec Dieu passe de la catégorie devoir à la catégorie vouloir. Le plus basique système d'évaluation que nous possédions, non, non, on ne prend pas conscience, hein, pour estimer les expériences et les événements que nous vivons, dans quelque domaine que ce soit, est-ce que le psychologue Jonathan Haidt appelle le « j'aime bien au maître ». C'est pas que j'aime quelque chose au maître, c'est le j'aime bien au maître. Donc il y a le thermomètre, vous avez compris le principe, il y a le thermomètre qui mesure quelque chose, on va pas préciser quoi, on sait, mais on le met. Le baromètre, et bien maintenant il y a le j'aime bien au maître. Alors comment ça marche? Vous allez vite comprendre, c'est très simple. Votre j'aime bien au maître s'est mis en route le jour de votre naissance. Pourquoi le jour de votre naissance? Parce que Dieu l'a mis en vous, ce j'aime bien au maître. Les récepteurs de goût, par exemple, sont, nous le savons, très développés chez les bébés. Donc un bébé, quand il veut évaluer quelque chose dans son environnement jusqu'à l'âge de plus ou moins 3-4 ans, il va tout mettre en bouche. Alors, les parents qui détestent ça, parce qu'il faut nettoyer beaucoup les trucs, mais en attendant, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et en langage bébé, ça pourrait se résumer comme « j'aime bien, il me le faut » ou « j'aime pas » et « je le retire de ma bouche ». D'accord ? C'est à travers cette expérience fondamentale que les bébés apprennent progressivement à distinguer ce qu'ils aiment de ce qu'ils n'aiment pas. Alors que votre croissance continue, votre j'aime bien au maître enregistre tout sans que vous ayez à y penser. C'est ce qu'il faut aussi que vous êtes vous et pas quelqu'un d'autre. Par exemple, certains n'aiment pas les chiquillons et d'autres adorent ça. Ils sont aussi bêtes que ça. Non, mais vraiment. Hein. Vous n'avez pas fait une étude comparative. Pourquoi est-ce que j'aime les chiquillons et pas les épinards? On s'en fout. Vous n'aimez pas ou vous aimez les chiquillons. Chaque son que vous entendez, chaque conversation à laquelle vous prenez part, la moindre bouchée que vous mangez sont enregistrées positivement ou négativement sur l'échelle de votre « j'aime bien » ou « je n'aime pas ». Et parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour tout, les personnes sont également enregistrées quelque part sur ce « j'aime » ou « je n'aime pas ». Même dans le domaine rationnel, ça fonctionne. Il ne faudra qu'une brève conversation pour vous sentir attiré par certaines personnes. Quelque chose en vous vous dit « j'aime bien cette personne, cette conversation plaît », voilà. Ou, à l'opposé, « je n'apprécie pas du tout ce que je suis en train de vivre comme moment ». Ça existe aussi. Je ne citerai pas dedans. Donc des personnes vont aussi enregistrer négativement. Donc, je ne vais pas rentrer dans la discussion, mais quand on est chrétien, il faut qu'on aime tout le monde. Voilà, ça, c'est vrai. Voilà. Oublier, pas le temps de développer ça. Bien sûr, il faut qu'on aime tout le monde. Bien sûr, il est très rare que nous nous disions en écoutant une personne, si ça, il continue à parler, je pense que je vais craquer. Hein. Je vais vraiment craquer. Je vais faire un malheur. Ça n'arrive jamais. Mais ça situe la personne quand même sur votre rapport à ce « j'aime bien ce que je suis en train de dire » ou « j'aime pas du tout ». Ceci étant dit, ce dont nous devons vraiment prendre conscience, c'est que ça ne s'arrête jamais. Et que ça concerne tout le monde en permanence dans tous les domaines. C'est pourquoi il y a une pensée, une question à laquelle vous allez, au niveau spirituel, dans votre relation à Dieu, tôt ou tard devoir faire face, le plus honnêtement possible. De toute façon, devant Dieu, ça ne sert à rien de mettre malhonnête, ça ne fonctionne pas. Est-ce que j'aime Dieu ou pas? Mon Dieu, dans une église, ça change quoi? Est-ce que j'aime Dieu ou pas? Où se situe-t-il sur cette fameuse échelle? Alors, je sais bien que la question peut paraître dérangeante et même étrange, et pourtant, elle est fondamentale. Je suis en train de vous demander si vous êtes désinvolte par rapport aux choses de Dieu, hein, si vous passez pas assez de temps à prier, c'est pas ça que je dis. Hein. Est-ce que fondamentalement, devant Dieu, vous pouvez dire « j'aime bien Dieu », on va dire « j'aime Dieu », « j'aime bien Dieu ». Il va falloir être lucide. Rappelez-vous, avant de partir en vacances, j'avais dit, cité Socrate au début, hein, connais-toi toi-même, c'est une donnée biblique aussi, hein, connais-toi toi-même. Hein. Premier élément que fait Dieu dans notre vie, c'est nous révéler ce que nous sommes vraiment, qui nous sommes. Et entre autres, dans ce qui nous sommes, qu'est-ce que j'aime vraiment? Si je n'apprécie pas être avec Dieu, c'est de ça qu'on parle. Hein. Personne que vous n'aimez pas et pas passer de temps avec, hein. C'est pas bien. Mais c'est comme ça que ça se passe quand même. Ben avec Dieu, c'est kiff. Hein. Donc, si je n'apprécie pas être avec Dieu, je ne passerai tout simplement pas beaucoup de temps avec lui, parce qu'on ne fréquente pas par choix, que les gens qu'on aime. Quand vous avez le choix de voir quelqu'un que vous n'aimez pas ou quelqu'un que vous aimez, 100% du temps, on va faire choix. Vous allez voir la personne que vous aimez. Non, ben si. Eh ben Dieu, c'est kiff. C'est la même chose parce que c'est une personne, c'est un être relationnel. Donc il va falloir être honnête à ce propos, parce que si vous n'aimez pas Dieu, si vous ne pouvez pas honnêtement dire « je l'aime bien », comment dire que je l'aime tout court, il est totalement inutile d'essayer de le tromper en faisant semblant. Alors vous allez me dire, mais moi je ne fais pas semblant. Vous pas, mais les chrétiens, oui. Depuis que l'Église existe, mes amis, et je me mets dedans, hein, nous les chrétiens, nous avons inventé un nombre incalculable d'astuces pour ne pas devoir faire face à cette terrible question, est-ce que j'aime Dieu ? Certains ont fui la question en chantant des cantiques, par exemple. Écrit par d'autres qui aimaient Dieu, ils vous disent « j'aime Dieu » et les gars, les gens en question chantent ce cantique alors que eux, dans leur vie, ils n'aiment pas Dieu. D'autres, ils éludent cette question en ne ratant, et c'est bien, hein, mais motivation, en ne ratant aucune rencontre d'église ou en aidant parfois leur prochain, ce qui est très bien, mais comme ils en ont envie et quand ils en ont envie, donc ils continuent à être les gestionnaires de leur propre existence. Et parfois même, on évite cette question en mettant en avant ses propres problèmes personnels. « Oh, moi j'ai trop de soucis pour pouvoir aimer Dieu, moi j'ai pas ce temps-là, quoi. Prendre à aimer Dieu, mais ça prend du temps. » Maintenant, soyons clairs, l'objectif n'est pas ici de vous faire vous sentir coupable de ce que vous devriez désirer Dieu davantage. Parce que la raison... Il y a une raison fondamentale, c'est que le verbe devoir ne possède pas la puissance nécessaire pour vous amener à aimer Dieu. Si vous vous dites, il faut que je dois aimer Dieu, ça ne changera rien. Il va falloir passer par une expérience de vie plus fondamentale que ça. Quand on commence à aimer une personne, c'est parce qu'on découvre le moi, la réalité profonde de qui est cette personne. Ça demande du temps au niveau relationnel humainement, ça demande du temps dans le même domaine avec Dieu. Alors, devoir, ça fonctionne à certains moments, c'est une sorte de moteur exilé, et il faut, hein. Je suis pas en train de vous dire que 100% de votre vie spirituelle, à un moment, ça va être « Oh, mais c'est l'esprit de Dieu !» Non, non. Il y a des moments où il n'y a plus que le devoir. Quand l'électricité saute, certains ont des groupes auxiliaires pour pallier à cette défection. Donc, devoir, parfois, c'est bien, parce qu'on n'a rien d'autre. Si je cours un marathon, j'en suis au kilomètre 23, qu'il m'en reste encore 19 à faire, le devoir, ça ne va pas m'aider à finir la course. Mais, à un moment, le vouloir, je veux terminer cette course. Donc on va repasser de moteur auxiliaire à l'autre, et là ça va le faire. C'est la même chose dans la vie du disciple. Celle-ci ne consiste pas à vivre ma vie en faisant ce que je devrais faire, plutôt que de faire ce que je veux faire. Si vous passez votre vie uniquement sur votre moteur auxiliaire à devoir faire les choses par rapport à Dieu, vous allez vivre une vie de fonctionnaire. C'est pas gentil pour les fonctionnaires. Vous comprenez ce que je veux dire, sans doute. Essayez de faire rimer vie abondante avec fonctionnaire. Devenir disciple, donc c'est très simple en fait, c'est apprendre à vouloir faire ce que je devrais faire. Donc à moi dire, moi Seigneur, ce que tu veux, moi je veux aussi. On est d'accord. Ce que Jésus veut nous faire comprendre au travers des paraboles parlant du royaume de Dieu et du désir qu'il suscite, comme dans celle du trésor enfoui de la perle de grand prix dont je parlais tout à l'heure, c'est que lorsque les gens viennent à comprendre à quel point Dieu est bon, rappelez, à quel point il est bon, ils en arrivent à le vouloir, lui, la source de cette bonté. Ils ne l'aiment donc pas seulement, ils le désirent. Il y a du désir. Alors le désir est mauvaise presse en l'Église. Enfin, moi j'ai entendu, j'ai pas assisté, des gens m'ont dit d'un compagnon de couple, voilà, le désir n'existe pas, hein, on prend rendez-vous. Ah oui ? Quelle est la limite de temps avant qu'un couple explose s'il n'y a plus de désir ? Et pas seulement sexuellement, hein, dans le domaine relationnel du couple. S'il n'y a plus de désir de l'autre, d'être avec l'autre, combien de temps est-ce qu'on a la chance que ça va durer, ce truc quasi, enfin, ça va se péter, ça va se casser la figure. Hein. Mais le désir, dans la vie de l'ennemi, souvent, c'est négatif. Ah bon ? Étrange. Dans l'enseignement de Jésus, ce qu'il faut comprendre, il y a parfois des... Vous devriez, mais ce ne sont que... C'est très rarement des... devoir d'obligation. Il n'y a pas d'obligation dans ce que Jésus dit. Ce sont des « tu devrais » d'opportunités. Ce serait bien que tu réfléchisses à ça, parce que ça changera ta vie. Par exemple, devoir d'obligation, tu devrais payer tes impôts. Personne ne paye des impôts, youpi boum. Le second, celui d'opportunité, est lié à la vie fondamentale de l'être. Tu devrais faire une pause. Ça, c'est bien ça, non ? J'en ai fait une dans un mois, ça n'a pas suffi. Tu devrais voir du monde, voir le monde. Sors de chez toi. Tu devrais goûter un morceau de gâteau, là, franchement, tu devrais le goûter. Hein. Je t'oblige pas, mais bon, qu'est-ce qu'il y a de ce gâteau ? La plupart du temps, les « tu devrais » du message de Jésus, sont des « tu devrais » d'opportunités. Ça va changer ta vie si tu fais ça. Donc, quand on commence à prendre conscience de ça, on va se sentir... Le risque, c'est qu'on se sente coupable parce que notre désir de Dieu n'est pas plus profond. Mais nous ne pouvons pas nous forcer à désirer Dieu davantage en nous disant que nous devrions le désirer plus. Ça, je l'ai dit, ça marche, ça marche pas. Donc, on va, encore une fois, devoir switcher, passer dans une autre dimension. C'est la raison pour laquelle nous sommes invités, dans le 34, verset 9, que vous connaissez certainement par cœur, hop, par David, tout grand David, et l'apôtre Jean va reprendre ça dans sa première épître. Hein. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, comme le Seigneur est bon. Goûtez. Ça, je pense que nous sommes bien, j'en aime bien bouffer, ça tombe bien. Goûter est un verbe qui touche à l'expérimental. Qu'est-ce qu'on déteste au niveau des enfants quand ils sont petits ? Quand ils refusent de manger quelque chose qu'ils n'ont pas quoi, qu'ils n'ont pas goûté. Tu ne peux pas dire que c'est mauvais, tu n'en as pas l'expérience. Goûte et tu verras. C'est comme si un chef 3 étoiles vous invitait à sa table, vous n'avez pas à vous engager à tout manger, prenez-en une bouchée et goûtez, simplement. Si vous n'aimez pas, vous pourrez laisser le reste, mais croyez-moi, le chef, lui, est convaincu que s'il parvient à vous faire goûter ne fût-ce qu'une petite bouchée, vous allez vous enfiler tout le reste avec. Donc, la question, aurions-nous oublié le goût de Dieu ? Autre question, en rapport avec la bonté. Est-ce que nous avons déjà goûté à la bonté de Dieu ? Autrement qu'intellectuellement, en théorie. Ou encore, ne savons-nous pas comment faire ? Nous ne l'a-t-on jamais expliqué ? Une chose, je pense, tout petit que la vie nous apprend, c'est que si nous ne goûtons pas, si nous n'apprenons pas à goûter, à faire l'expérience des choses, nous allons être très vite, très malheureux. C'est valable au niveau culinaire et c'est valable, au niveau spirituel. Alors, si vous faites partie de ceux qui aiment tout en termes de cuisine et sont énervés par ceux qui n'aiment rien et ne veulent rien goûter, transposez-vous sur le plan spirituel et demandez-vous si sur le plan spirituel, vous ne faites pas partie des pénibles, justement, qui n'aiment rien et qui ne veulent rien goûter. Alors, quel est ce chemin à prendre pour goûter combien le Seigneur est bon ? Eh bien, pour commencer à expérimenter ce chemin, c'est très simple, il va falloir utiliser nos désirs authentiques, ceux qui sont en nous. Dieu vous a créé avec des désirs, et il désire que vous le désiriez par-dessus toute autre chose, mais pas uniquement que vous vous contentiez de le désirer lui. Ça s'appelle un moine, et ça ne marche pas non plus. Il y a des grands moines, hein, extraordinaires. Mais il faut apprendre à aimer le reste. Nous ne sommes pas appelés à devenir des êtres aseptiques qui sont dans leur coin. Je ne suis plus au monde spirituel, je n'aime que le Seigneur. J'en ai entendu me dire ça. Il fallait voir leur famille autour. Arrête de n'aimer que Dieu si c'est ça le résultat. Hein. Recommence à aimer tout le monde et d'autres choses aussi. Hein. Moi, je ne mange rien. Je ne suis plus aux prières. Vous avez connu aussi. Hein. Mon Dieu va se servir du chiffon de l'autre. Hein. Quelle horreur. J'en ai connu un qui est un ascète et qui se réjouit de ce que les sous sont en pifre. C'est l'année de Bourguet. La première fois qu'on était à table, en retraite à Chimère, j'étais à côté de lui, et Geoffrey, qui est une bonne fourchette, on sait bien, se resservait de chez... Alors, Daniel, il prend un échiquon, voilà. C'est son truc à lui, c'est un ascète. Mais rien que de voir Geoffrey et d'autres manger, il avait un sourire qui faisait trois fois... Il était heureux de ce que les autres profitaient du plat. Ça, c'est un véritable ascète. Et l'ascétisme, pour lui, c'est un chemin de vie, et moi, je respecte ça. C'est pas le mien. De toute façon, c'est une tortue, vous m'avez avec Isabelle, et puis juste après, il vous dit « Maintenant, j'ai une chose à t'annoncer, tu vas être à 7. Je dois me battre avec ma femme tous les jours. Hein. » Et elle va gagner, forcément, puisque nous ne boxons pas dans la même catégorie. Donc, il faut utiliser nos désirs authentiques. Posez-vous cette question toute bête. Hein. Pourquoi Dieu nous aurait-il créé avec tant de désirs naturels en nous, si c'était pour exiger de nous que nous nous désirions absolument que lui. Il y a beaucoup de versets qui peuvent vous venir. Hein. Le vin remplit le cœur de l'homme de joie. Dans ce cas-là, il n'y a plus de pinard. Jésus dit, bah, il est temps que vous passiez à l'eau, vous êtes tous bourrés. Vous avez une semaine. Donc c'est vrai. Ça dure une semaine, les mariages en Israël. Il a le temps d'être vrai. Hein. Donc Marie, il n'y a plus de vin. Dieu entre, et je suis sommelier, oui, je... Et il transforme l'eau en vin. Et l'eau de purification, pas n'importe quelle eau. Et il paraît, dans le texte précise quand même, c'est extraordinaire, que le deuxième vin était supérieur au premier. Donc celui que Jésus donne aux convives est de qualité supérieure au premier. Alors que j'étais barman, les mecs bourrés, les croisés du matin, les gens, moi, un verre de vin, les fonds de bouteille. Oh, bah, tiens, on entend trop de choses. On ne donne jamais le meilleur vin à des gens ivres. Eh bien, Dieu, oui. Comprenez le principe ? Ok. Donc, quand nous profitons pleinement de ce que Dieu a mis à notre disposition, en termes de désir et de vie, son cœur de père est réjoui. Je ne suis pas en train de vous essuyer la gueule en sortant, hein. C'est pas ça que je dis. Hein. Non, mais je précise. Hein. Pourtant, de très nombreuses personnes, et c'est dramatique, hein, de très bons chrétiens se disent « Si je veux être spirituel, je dois éviter le péché. Okay » Et le meilleur moyen de l'éviter, c'est de supprimer le désir. Si je n'ai plus de désir sexuel, par exemple, ou désir de l'argent, ou la nourriture, ou du succès, je serai vraiment spirituel et je ne pécherai plus. Oui, mais dans ce cas-là, vous ne serez plus humain non plus. Et si vous n'êtes plus humain, vous ne serez jamais un témoin de Dieu non plus. Il s'est un peu incarné, Jésus, quand même. Jésus. Une dame de béton. Je vais faire un coup de fin terrasse, donc je sais de quoi je parle. Une dame de béton n'a pas à se soucier des mauvaises herbes, c'est vrai. C'est vrai. Hein. La dame de béton, elle s'en fout des mauvaises herbes, du péché. Mais ce qui est encore plus vrai, c'est que la dame de béton ne deviendra jamais un jardin non plus. Lorsqu'il n'est pas corrompu par le péché, le désir est quelque chose de fabuleux. Fabuleux parce qu'il fait partie du plan de Dieu pour l'homme. Dieu est un Dieu créateur de désirs, de satisfactions. Il a créé les oiseaux, par exemple, avec l'impulsion de voler. À ma connaissance, je ne suis pas spécialiste des oiseaux, mais à ma connaissance, aucun papa oiseau ne chante un coup de pied dans les fesses de son bébé oiseau pour qu'il aille casse-toi du nid. Oh, allez, faut que tu voles. Il ne fait pas ça. À un moment, le petit se dit, c'est le moment, je vole. Quoi. Voilà. C'est inné, son désir de voler. C'est en lui. Les dauphins nagent. Et apparemment, je ne suis pas un spécialiste de dauphin non plus, mais quand je vois des reportages, je vois des dauphins nager, de toute évidence, ils ne se contentent pas de nager pour se déplacer. Ils ont l'air de prendre un plaisir fou à sauter en l'air, à nager, à prendre de la vitesse. Ils ont été créés avec ce désir profond et naturel de nager. Alors, on va quitter les animaux et revenir à l'homme. Comment Adam, question théologique profonde. Moi, je poserai cette question en fin de première année de théologie. Comment Adam a-t-il su qu'il était supposé devenir une seule chair avec Ève ? Genèse 2:24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux feront une seule chair. Comment est-ce que Adam a compris qu'il devait faire une seule chair avec Ève ? Il y a plusieurs possibilités. Pensez-vous que Dieu lui ait laissé une liste de choses à faire ? Du style. Bon, Adam, alors, pour commencer, n'oublie pas de donner un nom aux animaux. C'est super important, tu ne vas pas t'y trouver. Quand j'y suis, descends les poubelles aussi. Ah, ce serait sympa. Et ah oui, n'oublie pas de devenir une seule chair avec Ève. N'oublie pas, c'est important. Parce que si vous n'êtes pas une seule chair, il n'y a pas de bébé. Vous allez rester à deux et ça ne va pas le faire. Je ne pense pas vraiment que ce soit passé comme ça. Personnellement, je crois qu'Adam a regardé Ève et il a découvert que le désir faisait partie de lui. Il a désiré sa femme. Alors nous sommes ici avant la chute, vous me direz. Autrement dit, d'où lui venait ce désir? S'il désirait quelque chose de mauvais, il venait d'où ce désir? Nous sommes avant la chute. Ça n'a rien à voir avec eux. Ça veut simplement dire que Dieu avait placé le désir en lui et en elle. Rassurez-vous, mesdames, ça marche dans les deux sens, hein, pas vraiment. Ce désir lui venait de Dieu. Si vous avez encore un doute, pensez à toutes les personnes souffrant de dépression. Alors, voilà, je ne suis pas psychiatre, mais un des symptômes, ce n'est pas la cause, mais un des symptômes le plus flagrant de la dépression, c'est quoi? C'est l'absence de désir. On ne désire justement plus rien. On n'a plus aucune envie. Mais mes amis, vivre sans désir et vivre sans but, c'est la même chose. Et ça s'appelle la mort. Ça s'appelle la mort. Alors, je vous rassure, je sais que mes désirs sont distorsionnés par le péché, je sais ça. Donc ils ont besoin d'être purifiés, d'être lavés, d'être adaptés, tout ça c'est vrai. Il n'en demeure pas moins vrai que le désir est une chose fondamentale. Et je fais ici à nouveau référence à Jésus, et Jésus fait référence à cela lorsqu'il dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il y a une purification à faire, bien sûr. Mais suivre Jésus, aller jusqu'à la mort pour certains disciples, parce qu'ils aiment Jésus, c'était un désir profond de le suivre. Tout quitter pour suivre le Christ. Vous ne pouvez pas faire ça sous la notion de devoir, ça ne fonctionne pas. Alors bien sûr, nous devons dire non à tout désir qui nous tiendrait éloigné de la vie de l'esprit. Ça ne dit pas ici de faire n'importe quoi, bien entendu. Mais ça signifie ceci en clair. Nous devons toujours être prêts à sacrifier un désir moindre afin de vivre une vie plus profonde. Mais à l'opposé, rien ne rend un être humain plus vulnérable à la tentation que de vivre une vie ennuyeuse et sans joie. Si vous vous faites chier dans la vie, vous allez tomber dans les gros parcours. Ça, c'est garanti. Vraiment. Mais vraiment. Hein. Que ce soit dans la vie tous les jours, au travail, dans le couple, dans les relations amicales. Ça, c'est sûr. Donc, nous devons prendre conscience et l'accepter. Que chaque fois que nous éprouvons un désir authentique, nous entrons dans le plan de Dieu et nous faisons l'expérience de combien Dieu est bon. Vous êtes au resto, vous faites un bon restaurant avec un copain ou un ami, peu importe, ou avec votre femme, votre mari, peu importe. C'est un chouette moment relationnel et la nourriture est bonne. Vous mangez, vous lancez un et vous dites « Ah, qu'est-ce que c'est bon ce truc !»« Merci Seigneur pour ce truc !» Il n'est pas tombé du ciel, enfin, c'est la façon de parler. Il n'est pas tombé du ciel ce truc. Merci pour le gars qui a sa mimine en cuisine. C'est super bon. Puis, j'en prendrais une deuxième cuillère. J'ai peur que ça m'alourdisse au niveau de ma vie de prière. Je ne dis pas qu'il faut s'empiffrer tous les jours. Hein. Tout est dans l'équilibre, encore une fois. C'est à travers, déjà, en termes d'expérience, tous les petits plaisirs que nous avons dans la vie, tous les désirs réalisés, que nous prenons conscience que Dieu nous a donné tout ça pour que nous puissions expérimenter ces choses. Et que nous apprenions à lui dire merci pour ce qu'il donne avant d'apprendre à lui dire merci pour ce qu'il est. Moi, si je prends un gars dans ma vie qui ne m'apporte rien, qui ne me dit rien, qui ne m'offre rien, qui n'est jamais là pour moi, je ne vais pas me dire ce mec est génial, j'ai envie. Oh, il donne tellement de trucs, mais non, il ne donne rien. Ah oui, c'est juste. Bah alors, ce gars n'aime pas. Ah non, il n'aime pas, parce qu'il ne donne rien, il ne fait rien pour toi. Donc, nous apprenons progressivement comment Dieu nous a câblés dès le départ et ce qu'il veut que nous fassions. Et le résultat est que nous surprenons à commencer à aimer ce Dieu-là toujours davantage. Et c'est de cette façon que progressivement, nous allons goûter et voir, connaître combien le Seigneur est bon. Et notre désir peut alors devenir partie prenante de la vie de l'Esprit. Alors, je vais passer, pour terminer, à la dimension pratique. Comme d'habitude, il y a un côté pratique dans ce que je vais dire maintenant, donc essayez de vous évaluer. Comme ça sera sur le site la semaine prochaine, donc n'ayez pas le temps de faire ça aujourd'hui, c'est pas grave, vous avez toute la semaine et même après. Donc, chacun de ces désirs, qu'on va énumérer maintenant, a été conçu par Dieu pour devenir un fondement de votre vie, équilibré dans l'Esprit Saint, bien sûr, hein, mais pas de manger, de taper des restos tous les jours et que prenez 20 kilos. No good. Pas good. Premier désir, les désirs matériels. Oh mon Dieu, mais c'est mal. Ah bon? Vous n'avez pas de voiture? Vous n'avez pas de maison? C'est parce que si c'est mal, moi je vais entendre dire, oh mais Dieu matériel, mon Dieu, c'est l'ordre de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir Dieu matériel, quelle horreur. Vendez vos maisons, vendez vos bagnoles, vendez vos frères, vendez tout. Prenez un bâton et allez faire la manche, la guerre du midi, quoi. Nous avons tous des désirs matériels. Ça, c'est ça la vérité. Des désirs attachés à l'argent, aux vêtements, aux voitures, j'ai dit, aux maisons. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, acheté une maison, on est en Belgique, hein, un appartement, etc. Donc, si vous estimez que finalement, ça, c'est pas très spirituel, ben, il faut vous en débarrasser. Vous dépêchez de vendre. Dépêchez-vous parce que le marché n'est pas bon pour l'instant. Donc, même si nous parvenions à nous débarrasser de tout péché, imaginez, nous aurions encore des désirs envers les choses matérielles. Pourquoi ? Parce que la création de Dieu a fait entrer le divin dans la sphère matérielle. Paul le dit autrement. Ben, c'est plus théologique que moi. C'est l'invisible qui a créé le visible. À partir du moment où c'est visible, c'est matériel. Et nous évoluons dans un univers matériel. Je pensais de manger, arrêtez-vous de manger, vous allez mourir. Et voilà, c'est aussi bête que ça. Donc des désirs matériels liés à l'univers matériel dans lequel il vous a placé, ben vous en avez, forcément vous en avez. Vous êtes un être de matière. À part cochère à Dieu, nous avons fait comme nous sommes quand même. Surtout pas moi. Est-ce que vous aimez l'argent? Non. Non. Moi, je n'aime vraiment pas. Je crois autre chose. Hein. Est-ce que vous aimez vraiment? Est-ce que vous aimez l'argent? Qu'est-ce que je dois répondre à cette question? Je sais que c'est un peu provocateur, hein, mais dans le chapitre 16, livre des Actes. Vous voyez le livre des Actes? Pas du tout, j'ai bien. Oh. 25 ans de pastorat, on commence à avoir l'expérience. Hein. Eh bien, dans ce livre de Actes, nous parle d'une certaine Lydie qui était une femme d'affaires. Pour l'époque, ce n'est pas courant non plus. Hein. Et qui travaille dans le textile. Elle fut la première convertie d'Europe, parce que la ville de Philippe se situe en Grèce, en Macédoine exactement. Elle avait de toute évidence du flair dans les affaires et un goût suffisant de ce qui plaisait à l'époque en matière d'étoffes, parce qu'elle teignait des étoffes. Imaginez un seul instant la volonté, la détermination, le désir qui ont dû animer cette femme dans l'Antiquité pour qu'elle réussisse dans les affaires à l'époque. Les femmes étaient juste bonnes à faire des gosses. Mmh. Il a fermé le... Oui, je sais, c'est à côté... Mmh. Le stage nous prend à ce moment-là. Mais bon. Elle était en tout cas assez bonne dans ce qu'elle faisait pour posséder sa propre maison. C'était rare aussi à l'époque. Et celle-ci était assez grande quand même pour... Devenir intégrant de son ministère, à son version, c'est elle qui a accueilli dans sa maison la première église d'Europe. Et c'est le livre des Actes qui nous le dit. Parmi toutes les églises construites au cours des siècles, Notre-Dame de Paris, pour ce qu'il en reste, l'abbaye de Westminster et la chapelle Sixtine, la toute première en Europe, fut la maison de cette femme d'affaires appelée Lydie. Paul ne lui a jamais dit, tu fais de l'argent, tu gagnes bien ta vie et tu travailles, c'est pas bien. Voilà, Dieu merci pour la clairvoyance, l'intelligence de cette femme. Merci Seigneur, parce qu'elle nous a convertis, puis elle accueille ton église ici, c'est fabuleux, quoi. Elle donnait certainement beaucoup de ses biens. C'est... Merci Seigneur. Alors peut-être vous avez du flair pour l'argent. Il en faut, hein. Moi j'aimerais bien que Dieu envoie des banquiers dans l'église. Enfin, des banquiers qui ont le don de générosité, au fond, ça n'a aucun intérêt. Ah, tu veux un truc, t'es à la rue, je prie pour toi. Vous y prenez du plaisir à faire de l'argent. Vous n'allez jamais oser le dire dans l'église. Mais vous avez du plaisir à faire des affaires. Vous aimez peut-être aussi parce que vous avez des moyens financiers, vous entourez de beauté, de couleurs, de peinture. En soi, ce n'est pas un problème. Dieu a créé la beauté, Dieu aime la beauté. Maintenant, si ces désirs vous empêchent d'être généreux, vous poussent à vous endetter ou créent en vous un sentiment chronique d'insatisfaction, là, il faut peut-être commencer à réfléchir sur votre rapport à l'argent. Mais tant que c'est clair, net et honnête, et que c'est dirigé par Dieu. Et mes amis, l'argent est le nerf de la guerre, vous savez, tout le monde a besoin de pognon, et certainement l'Église. Voilà, comme ça c'est fait. Donc, mais si c'est une bonne chose de mettre la beauté dans votre environnement et que ça parle à votre âme, embrassez pleinement ces joies que Dieu vous donne, ce désir du beau que Dieu vous donne. Et remerciez Dieu pour sa bonté. Parce que si vous êtes en relation avec le beau, c'est un des moments de grâce où Dieu veut vous inviter à faire l'expérience de sa présence aussi. Deuxième type de désir, c'est des accomplissements. Alors, par provocation, j'aurais pu mettre un synonyme. L'ambition. Le pasteur, en fait, il faut être très humble. Très humble, très généreux. Il faut disparaître, en fait, devenir transparent. Ah bon? Vraiment? Moi, j'en ai connu des comme ça, hein, qu'on a mis en... qui sont devenus pasteurs parce qu'ils étaient soi-disant humbles. Qu'est-ce qu'ils étaient chiants, bordel. Et surtout pas à leur place. Si Dieu vous a donné un QI de 150, c'est pas pour vous compter les allumettes. Hein. Vraiment. Si vous avez un don miséricorde, c'est pas pour que vous fassiez semblant de ne pas savoir gérer les problèmes des gens. Il faut apprendre à écouter, entendre les problèmes des gens. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de personnes dans l'histoire qui étaient plus motivées par l'accomplissement, par l'ambition que l'apôtre Paul. Pas d'ambition pour lui. Si Paul n'avait pas eu d'ambition, on serait mal, forcément. Et c'était un fou dans le judaïsme, un passionné, un cinglé. Et Dieu a dit, le cinglé, là, moi je vais le prendre dans mon service, il va foutre un bordel terrible. C'est ce qu'il a fait. Mais Paul était un ambitieux, bien sûr. Il voulait que le royaume s'étende. C'est de l'ambition, ça montre. Il n'avait pas envie que ça reste dans un petit coin de Judée comme ça. Non, ça devait s'étendre. Alors les 11 autres andouilles là, qui ne bougeaient pas leur tête de Jérusalem, ça c'est leur problème. Moi je prends le reste du monde, c'est ça qui s'est passé. Et Dieu l'a suscité pour ça. Il savait très bien ce qu'il avait mis en Paul. Et ce qu'il avait mis en Paul avant sa conversion, ce désir profond de faire grandir les choses, il lui a laissé dedans pour après sa conversion, boosté en plus par le Saint-Esprit. Mais l'ambition c'est mal. Il ne faut pas avoir une vision expansionniste. Ah non? Moi, j'ai vraiment envie que Jésus installe son royaume. Il y a quand même un texte, entre autres, il y en a plusieurs, un texte dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, qui dit « Hâtez le retour du Seigneur, faites grandir ce machin pour que le royaume arrive. » Moi, j'aimerais bien les chrétiens aient plus d'ambition pour l'Église. Parce qu'il y aurait plus de conversions, il y aurait plus de gens qui rentrent dans le royaume, et Jésus reviendrait plus vite. Aussi. Donc, l'ambition... C'est un désir profond de faire grandir les choses. Et c'est une bonne chose. Paul, il a des expressions comme ça. Deuxième à Timothée. J'ai combattu le bon combat, j'ai fini la course. Ça ne fait pas spécialement référence à une vie dans un transat, il me semble. Dieu n'a pas retiré à Paul son désir d'accomplir de grandes choses. Au contraire, il a exploité afin que Paul puisse servir les autres et faire grandir le royaume de Dieu. Nous avons tous des désirs d'accomplissement parce que Dieu nous a créés pour assumer la domination dans ce monde. On a ça en nous. C'est pour ça que l'Ecclésiaste nous dit, dans le livre de l'Ecclésiaste, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Vous l'accomplissez des trucs, faites ça maintenant. Quand vous serez dans question de sapin, ne ferez plus rien. Mais vraiment, hein. Une vie, vivez là, quoi. Pour Dieu, hein, vivez là. On peut être conduit par une forte envie de réussir sa carrière professionnelle ou être puissamment motivé par l'opportunité d'apprendre. On peut être aimez-vous simplement faire bien les choses. Tout ça, c'est important. Encore une fois, si vous devenez un accro du travail, vous négligez votre famille, la vie d'église, vos relations, etc., il faut réévaluer tout ça. Bien entendu, c'est toujours une question d'équilibre. Mais bien faire les choses, avoir envie que les choses avancent au niveau professionnel, au niveau de l'église, à tous les niveaux de votre vie, si vous avez ça en vous, mais continuez. Et ne vous dites pas, c'est une catastrophe, j'ai trop d'ambition. Travailler bien fait, ce n'est pas une ambition, hein. C'est honorer Dieu. Faites tout comme pour le Seigneur. Donc vous pouvez être dans la joie en ressentant ce désir profond de faire grandir les choses. Si vous avez ce feu en vous, demandez à Dieu de l'alimenter et de le faire pour lui. Parce que vous allez faire grandir les autres aussi. Parce que tout le monde n'a pas ça. Et si vous l'avez, comme tous les dons, même si on ne s'en rend pas compte, forcément les dons leadership, ça va avoir un impact sur la vie des autres aussi. Et puis encore une fois, au niveau travail, par exemple, quand vous faites les choses, hein, je te bénis ces personnes, Seigneur. Hein. Comment vas-tu? Bénis personne qui vient de faire quelque chose. Et apprenez à remercier Dieu. Parce que c'est ça aussi, hein, on est souvent déconnecté de Dieu parce qu'on ne passe pas nos journées avec lui, parce qu'il n'est pas présent à notre esprit, c'est aussi bête que ça. On peut se lever le matin à 7h, 6h, peu importe, 8h, 10h en vacances, et puis vous allez vous cacher à minuit, 1h, peu importe, et entre les deux moments, il s'est passé quasi que dalle au niveau relationnel. Ouais. Peut-être pas penser à lui, on ne peut quasi pas parler. Alors que si on installe tout ça, on comprend que ces désirs sont là, en nous, placés par Dieu, il y a un moment, on va de plus en plus être en contact permanent avec lui. Et on va le remercier pour ce qui se passe dans nos journées aussi. Votre chef de service vous engueule, il s'en va. Bénis cet homme, Seigneur. J'ai envie de le tuer, donc je suis là. Mais bénis-le. Parce que, mais vraiment, hein, vous avez envie de le tuer, ben, plutôt que de qu'on songe, non. Bénis-le, Seigneur. Voilà. Parce que c'est ce que tu veux pour la vie. Troisième type de désir, là, quatre. Hein, je termine, je suis un peu long chez moi, désolé. Les désirs relationnels.
Eh oui, nous avons les désirs relationnels.
Normalement. Sauf si vous êtes un Igois, alors, pour tourner aux eaux. Hein. Il y a une très belle histoire dans l'Ancien Testament qui nous parle, vous connaissez, de David et Jonathan. Vous vous rappelez ? Je ne parle pas du duo improbable. Hein, est-ce que tu viens de poulet ? Non, pas ça. Hein. Ça, c'est un blasphème, ce truc. Vraiment, même musicalement, c'est un blasphème absolu. Est-ce que tu viens de poulet ? Si tu chantes comme ça, je ne viendrai pas pour la David. J'en ai assez que tu chantes pour la chante. Il faut quand même rappeler, pour l'anecdote, mais c'est important, que Jonathan, le Jonathan en question, il est l'héritier du trône d'Israël, son père, le roi Saül, le premier roi d'Israël. Jonathan doit monter sur le trône. Et David est le véritable héritier que Dieu a choisi. Jonathan, il pourra avoir les dents qui rêvent de partir en disant « Ce gars ne montera jamais son manteau. » Pas du tout. Il va tout faire pour que David y monte, parce qu'il aime David. Alors certains saligots, je le dis comme je le pense, on dit « Ah, c'est vrai, c'est une bédard. » C'est un homme, ah oui, sans blague, ne peut pas aimer un ami. L'amitié, c'est de l'amour. Hein. Un très vieux dicton japonais dit qu'il vaut mieux être entouré d'amis que de femmes. C'est japonais. C'est depuis lors qu'on est monogame, on a compris. Il a donc abandonné son héritage au niveau du trône d'Israël, par amitié pour David. C'est très inhabituel au niveau des cercles de pouvoir. Alors je pense qu'on a oublié beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, mais je crois que ces deux noms, David et Jonathan, chaque fois je pense ça, c'est horrible, c'est le péché ça. Ces deux noms, ben, on ne les a jamais oubliés. Et je subodore que le sponsor, l'impresario de ces deux glettes à houlette des années 80, on choisit ce nom en se disant ça va rappeler certaines choses, ça va faire vendre plus facilement. Nous avons tous des désirs relationnels, mais nous n'y mettons pas assez d'investissement. C'est comme dans beaucoup d'autres choses. Parce que nous sommes trop occupés. Ça prouve en tout cas une chose, c'est que les relations profondes ne tombent pas du ciel. Et oui, ça c'est le problème. Hein. Il va falloir investir. Jonathan a dû faire tomber un grand nombre de barrières pour devenir l'ami de David. Ça n'a pas été tout seul. Et il y a de fortes chances que si vous désirez devenir vraiment ami avec quelqu'un, vous deviez faire la même chose. Alors la question qu'il faut se poser, elle peut paraître idiote, hein, mais pour des chrétiens, moi je pense qu'elle est loin de l'être. Avez-vous un ami? Moi, c'est une question que j'ai souvent posée dans les autres églises où je suis passé dans mon errance spirituelle. Ah, ils avaient des frères en Christ, hein. Il ne fallait pas leur tourner le dos, mais ça c'est le principe au niveau des chrétiens, éviter de tourner le dos quand même. Ça peut être vachement dangereux pour la santé, mais vraiment, il faut faire attention. Un véritable ami qui sait tout de vous, absolument tout, surtout le pire. Oh, qu'est-ce que j'ai comme ami, moi? Je suis un dépensé. Même ma mère, mon ami. Donc je ne parle pas de connaissances superficielles, je ne parle pas de copains. Hein. Je parle d'amis. Alors, si vous n'en avez pas, on parle de relationnel. Ben, il y a une question à vous poser. Hein. Demandez-vous pour quelle raison vous n'avez pas d'amis. Parce que l'amitié, je vais le redire, c'est de l'amour. Certains ont dit c'est de l'amour sans le sexe. Merci. Parce que j'en aime certains très fort, mais pas jusque-là. Hein. Puis j'ai fait une biopsie au mois de juin. Moi, je bénis les homosexuels, hein, je vous le garantis. Parce que je ne comprends pas quoi. Autrement dit, si je ne connais pas le vrai vous, si vous ne me le montrez pas, je ne serai jamais votre ami. Moi, ça ne m'intéresse pas à titre personnel d'être en relation avec une façade. Vous savez, comme les cordes western. Le saloon, vous poussez, il n'y a rien derrière. C'est du carton-pâte. Rappelez-vous ce très très beau verset de Proverbe, qui ne passe pas du tout aujourd'hui. Hein. Écoutez bien. Un ami te blesse par amour, alors que ton ennemi multiplie les embrassades. Moi, dans ce que je fais, je suis quasi 90% de mon temps, je passe à dire des choses que mes amis n'ont pas envie d'entendre. Je suis un chouette ami, moi, quand même. Enfin, surtout pas que ça m'amuse. Hein. J'ai envie d'être aimé comme tout le monde. Aucun d'entre vous, après avoir acheté une maison, ne se contenterait de rester sur le trottoir et d'admirer la façade, la belle façade. Si on achète une maison, c'est pour y entrer et y vivre, et dans les relations, y compris, c'est pareil. Sans cette qualité relationnelle, non seulement la vie est un leurre, mais la vie d'église aussi. Hein. Qu'un symptomatique que Jésus, et je parlerai de ça peut-être plus profondément, le dernier message sur le discipulat, parce que je pense que c'est vraiment important. À la fin de son ministère terrestre, il dit un truc extraordinaire à ses disciples, il dit « Vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes mes amis. » Parce que vous savez qui je suis en fait, et moi je sais qui vous êtes. Vous êtes mes amis. Donc, par exemple, une question stupide que je pose, mais si nous ne voulons pas de relations véritables et profondes, que faisons-nous dans une église? Alors, beaucoup d'églises, la réponse est simple, on fait semblant. Mais autrement, moi, c'est un des termes qui m'a souvent plus dérangé dans la vie d'église, et je vous le dis très honnêtement, c'est le terme frère et sœur. Tu es mon frère, beaucoup au départ. Tu es mon fils, stop, j'ai déjà des parents, ça me suffit. Hein. Ça ne me dérange pas parce que c'est pas beau comme terme, c'est magnifique, mais qu'est-ce que ça présuppose? C'est un amour inconditionnel, même dans les fratries, ça n'existe pas. Moi j'ai deux sœurs, alors il y en a une, je suis très proche d'elle, même si elle est infernale. L'aînée, moi je l'aime beaucoup, enfin j'aime bien, mais je n'ai pas de relation avec. Enfin, ne me demandez pas où, je ne sais pas. Donc être sœur ou frère, tout ça est très relatif, sauf quand on comprend le sens que Dieu donne à ce terme. Nous sommes frères et sœurs parce que nous sommes le frère ou la sœur du Christ. Ça, c'est une autre dimension. Et là, on ne peut pas rester en superficiel, mes amis. Là, justement, il faut aller dans la profondeur. Parce que l'ami Jésus, il a quand même été jusqu'à donner sa vie pour ses amis. C'est quand même très interpellant de voir que la façon dont Jésus a procédé pour faire de ces hommes improbables des disciples, c'est tout simplement la vie communautaire, hein, c'est vivre avec eux. C'est tout. Enfin, c'est tout. Consécration, hein, c'est bien. Des hommes qui partagent tous les repas, ça peut être sympa, les problèmes, les joies, les questionnements, en un mot, le quotidien. Il n'est pas pour moi que Jésus les appelle ses amis, parce que c'était ce qu'ils étaient devenus, tout simplement. En fait, posez-vous la question, à qui confieriez-vous ce que vous avez de plus cher? Moi, si je devais disparaître avec Isabelle et maintenant Jessica est grande, quoi que. Si j'avais dû la perdre étant petite, moi je ne la confie pas à mes parents. C'est honnête, hein, je ne l'aurais pas confié à mes parents. Un ami, plus probable. Ouais, un ami, ouais, peut-être. Donc à qui d'autre que ses amis intimes, Jésus aurait-il pu confier quoi? Son œuvre, le royaume à venir. Je vous le confie, ça. C'est ce que j'ai donné envie pour ça. Je vous le confie. Je n'ai pas filé ça à Marie, mais enfin, ça fait partie ici, mais pas aujourd'hui, j'étais mort, mais. Voilà. Vous êtes mes amis, je vous confie ça. C'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Voilà. et je reviens avec ça parce que c'est toujours un personnage qui m'a beaucoup touché. Le plus triste reste que le seul qui se soit perdu l'ait été parce qu'il n'a pas voulu s'ouvrir et dévoiler son être profond. Je parle de Judas. Pas que Jésus ne savait pas qui il était, il l'a toujours su. Et il l'a gardé près de lui 3 ans en priant, je suis certain, son temps, en disant « Il faut que tu ouvres le truc. » En disant « Père, mais ouvre-le, quoi. » Parce qu'il faut qu'il s'ouvre. Que se serait-il passé s'il avait ouvert son cœur, Jésus? Moi, je peux voir plein de choses en vous. Si vous ne parlez pas, je ne vais pas aller vous violer non plus. Donc, cette capacité d'interagir pleinement avec les autres est un don de Dieu que nous mésestimons pour de très nombreuses raisons. Mais ce désir relationnel est un des plus naturels et des plus ancrés en nous. On ne peut pas vivre seul. On n'a pas été créé pour vivre seul. Parfois, on fait le nettoyage autour sans s'en rendre compte. Et on se demande, je suis tout seul, comment se fait-ce ? Commence à te poser des questions. Les fausses relations, mes amis, sont le poison qui tue l'Église depuis des générations. Des problèmes, il y en aura toujours. Des gens qui tombent, qui font les andouilles, il y en aura toujours. Qui désobéissent, et je ne dis pas que ouais, c'est super de désobéir, pas du tout. Mais qu'est-ce que je fais quand le mec est par terre ? Je l'achève ou je relève ? Ce n'est pas très compliqué, la vie. Le relever, ça va être plus compliqué. Et il va falloir parler du temps, il faudra montrer de la boue, la compréhension, mettre les claques quand il faut. Mais il faudrait rester à côté. Un mourant, on ne laisse pas crever, on reste à côté. C'est plus facile de dire, allez, hop, on va lâcher tout de suite, hop, et voilà. Et puis, c'est bizarre, hein. Dieu, les gens veulent encore bien entendre parler, mais dès qu'on parle des lits, ils fouillent, non, sans blague. Parce que ça, ils ont bien compris, les gens. Et dernier point, j'étais très long, vraiment, désolé. Les désirs. Parce que Dieu a aussi, nous a aussi donné un corps, vous l'avez remarqué, aussi. Nous éprouvons de l'appétit pour les choses qui se mangent, qui se boivent, qui se touchent et qui se voient. Je vous faisais l'allusion tout à l'heure à la première épître de Jean, c'est un symptomatique qui parle, nous vous parlons de ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons touché, de nos mains, ce que nos oreilles ont entendu. Il parle de son expérience de Jésus. Jésus est quelqu'un qui l'a entendu, qui l'a vu et qui l'a touché. Le témoignage des disciples, ce n'est pas de l'intellectualisme. C'est de l'expérience relationnelle. Ils ont vu ce qu'il a fait. Ils ont été avec lui. Ils ont mangé avec lui. Ils ont bu avec lui. Ils ont touché Jésus. L'Ancien Testament est rempli de commandements au travers desquels Dieu dit à son peuple de festoyer, de manger, de célébrer, de chanter, pas tous, c'est pas faux, préférence, de danser, donc de crier, de faire de la musique, par exemple. Toutes les choses que nous faisons avec notre corps. Donc tous ces appétits, ces désirs, ces amusements peuvent donc devenir des moyens de nous rappeler combien le Seigneur est bon. Vous êtes à un concert, je ne parle pas d'un concert de louanges, un concert. Bon, je ne vais pas citer de nom d'artiste, mais le truc, ce n'est pas raisonnable, honnêtement. Mais vous passez un bon moment. La musique est de qualité, c'est vraiment bien. Il y a un sentiment de satisfaction, apprenez à dire merci à Dieu pour ça. Et s'il lui dit, à ce moment-là, ben là, j'y suis vraiment pour rien, là, vous vous sortez en courant. Et on n'est pas tous réceptifs au même style de son, mais pas de musique. Hein. Certains groupes, ce sont des sons. Donc, tous ces désirs et ces amusements peuvent donc devenir des moyens de nous rappeler combien le Seigneur est bon. Nous apprenons alors à faire le lien entre le don que nous aimons déjà, nous aimons ce don qui nous a donné d'être capable de nous réjouir, et celui qui donne, qui a fait don de ce don, à savoir Dieu. Vous commencez avec ce que vous appréciez, et cela nous amène à la source de ce que vous appréciez, à savoir Dieu. Mais il faut apprendre à faire le lien entre les deux, et ça, on ne le fait pas assez souvent, je pense. Ou pas du tout. Dieu se réjouit lorsque vous profitez de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que votre bouche fait de nouvelles expériences gustatives, par exemple. Dieu se réjouit de ça. Le physique, mes amis, n'est pas séparé du spirituel. On les a trop souvent opposés. Essayez de prier dans une mauvaise position, en ayant mal au dos. Vous n'allez pas prier longtemps. C'est aussi bête que ça. Est-ce que je prie à genoux ? T'as pas un épanchement synovique, toi ? Oui, on n'en prie pas à genoux, quoi. Il faut faut être bien pour prier. Parce qu'on va passer du temps, 3-4 heures.
Mais dis-moi. Je terminerai là.
C'est le même Esprit Saint qui a créé nos corps. Alors, lorsque nous nous ouvrons à l'Esprit de Dieu au travers de nos désirs physiques, nous commençons à aimer Dieu de plus en plus, pas parce que nous le devrions, ou parce que ça nous est commandé, mais parce que nous apprenons à le connaître, lui, personnellement. Et nous ne pouvons plus dès lors nous empêcher de lui dire merci. Après tout, pour toi, un niveau premier, très basique de notre foi, que pouvons-nous dire d'autre à Dieu que merci ? Amen.